Merci beaucoup Rupert d'être venu dans notre émission Under the Tree. Vous avez été l'un de nos invités les plus attendus. Merci. Je voudrais juste aborder une question qui préoccupe personnellement Newman depuis longtemps, à savoir quelle est la place de la création dans tout l'aspect de la non-dualité. Parce qu'il y a une histoire, je suis sûre que vous la connaissez, d'Alan Walkes où Dieu avance et se crée de multiples versions en lui-même, et Dieu est Dieu a oublié qui il était. Une autre question qui en découle, juste pour que vous puissiez y répondre également. Pourquoi, malgré notre vraie nature, déciderions-nous d'oublier à tout moment?
Donc, la compréhension non-duelle suggère que la réalité est une seule et même chose, indivisible, non constituée de parties. Elle est entière. Elle est concrète et ne fait qu'un. Il n'y a rien en soi qui puisse la diviser ou la limiter. Si vous pensez à l'espace physique imaginé, au vaste espace physique de l'univers avant qu'il n'y ait quoi que ce soit dedans, ce n'est pas très précis de le modéliser, mais imaginez simplement le vaste espace physique de l'univers avant qu'il n'y ait des objets physiques, des galaxies. Tout ce qu'il y a, c'est de l'espace physique. Il n'y a rien dans cet espace avec lequel l'espace pourrait être divisé. Vous ne pouvez pas faire un mur avec de l'espace vide. Un mur fait d'espace d'entrée vide ne cacherait rien à rien. Et de même, il n'y aurait rien pour limiter l'espace. Pas de bord, pas d'ordre. Donc l'espace serait illimité. C'est comme ça que la compréhension non-duelle suggère que la réalité est une, sans couture, indivisible, entière. Complète. Infinie sans limite et parfaite. Il n'y a rien en soi d'autre qu'elle-même qui la ternirait ou pourrait être une imperfection. Et ce n'est pas une idée abstraite d'un autre domaine en dehors de ce domaine. D'accord. La réalité est ce qui est vraiment. Pas ce qui est vraiment dans un autre univers. Contrairement à cet univers où il y a une diversité multi-instantanée d'objets et de personnes, tous faits de matière. Cela signifie que la réalité, tout ce qu'il y a vraiment, ici et maintenant dans ce royaume, n'est qu'un tout infini et indivisible, dont la nature est d'être ou d'être conscient. La conscience est la substance qui est la réalité et c'est tout ce qui existe. Tout ce qui existe, c'est la conscience. Et la conscience est intrinsèquement cette lumière, comme l'espace vide, avant que l'apparition de tout objet dans les espaces vides ne soit vide. Il n'y a pas de forme là-dedans. Il n'y a pas de vue. Pas de forme. Et la conscience est comme ça. Et en fait, c'est en fait notre expérience. Si nous allons directement, si nous allons dans nos pensées, nos sentiments, nos sensations, nos perceptions, il y a une forme là-dedans. Il y a une durée. Il y a des qualités. Mais si nous allons directement dans l'expérience d'être conscient, il n'y a pas de qualité là-dedans. C'est sans forme. Donc, pour répondre à votre question, comment la création se produit-elle si ce qui est vraiment est infini, indivisible et comment pouvons-nous rendre compte de tout cela? Avec cela, il y a sans aucun doute une expérience. Nous ne faisons peut-être pas l'expérience d'un monde. Mais même si ce n'est pas un monde, c'est sans aucun doute une expérience. Il y a quelque chose ici, il n'y a pas rien ici, il y a quelque chose, alors comment pouvons-nous rendre compte de cela, si, pour le bien de tous, comment la compréhension non-duelle rend-elle compte de cela? Si, en même temps, Je dis que la réalité, ce qui est vraiment est sans forme. Donc la compréhension non-duelle suggère que la réalité, la conscience infinie est sans forme, mais qu'elle contient toutes les formes possibles, toutes les expériences possibles en elles-mêmes en potentiel, mais elles sont non manifestées. C'est juste un irréel de potentiel infini. Maintenant, afin de manifester une partie de ce potentiel sans forme dans la forme, la conscience doit se diviser ou se voir pour se diviser en un sujet et un objet, l'apparence. Et la réalité. Maintenant, pourquoi cela? C'est parce que pour que quelque chose soit expérimenté ou connu, cette chose doit être connue dans une relation sujet-objet. Pourquoi ne pouvez-vous pas voir vos propres yeux? Parce que vos yeux ne peuvent pas se détacher d'eux-mêmes et se regarder. Vous pouvez me voir. Parce que vous vous tenez à distance de moi. Vous pouvez voir les caméras, les lumières, les fenêtres, le ciel, les arbres. Vous pouvez voir tout ce qui se trouve à distance de vous. Mais la seule chose que vos yeux ne peuvent pas voir, c'est eux-mêmes. Parce que voir nécessite un sujet et un objet et toute expérience, toute connaissance et toute expérience se déroule dans une relation sujet-objet. Afin de connaître un objet, que cet objet soit une pensée, une émotion, un souvenir, un arbre, alors toute connaissance et toute expérience se déroule dans une relation sujet-objet qui nécessite que le sujet se tienne à l'écart de l'objet. Donc, quelle dualité d'une relation sujet-objet est le mécanisme par lequel l'expérience objective est connue? Donc, la relation sujet-objet est le mécanisme par lequel le potentiel qui réside dans la conscience est amené à se manifester. Ainsi, la conscience se localise, se divise ou semble se diviser en deux en un sujet qui sait et un objet qui est connu. Elle se divise donc en un percepteur et un perçu. Et c'est seulement du point de vue de celui qui perçoit qu'il peut connaître l'expérience objective. Et c'est exactement le mécanisme qui se produit lorsque vous faites un rêve la nuit. Vous imaginez que vous vous endormez chez vous, ici à New York. Mais vous rêvez que vous êtes à Londres, en train de marcher dans les rues de Londres. Maintenant, votre propre esprit, votre. Je parle maintenant de votre esprit limité. Mais c'est une analogie avec la conscience. Mais votre propre esprit limité est un champ de conscience homogène unique ou, bien qu'il s'agisse d'un champ limité. Mais. Néanmoins, vous rêvez des rues de Londres dans votre propre esprit, mais vous ne les voyez pas. Depuis votre lit ici à New York. Afin de voir le monde rêvé, les rues de Londres, votre propre esprit ne crée pas ou n'imagine pas seulement les rues de Londres en lui-même, il se localise dans les rues de Londres dans sa propre imagination comme un sujet d'expérience apparemment séparé du point de vue duquel il se perçoit lui-même ou un esprit fini comme un monde extérieur. Lorsque vous vous réveillez, vous réalisez qu'il n'y avait pas de monde extérieur là-bas. Il n'y avait pas vraiment de division dans mon esprit, il ne s'est pas vraiment divisé en deux parties. Mon esprit est toujours un trou. Mais, du point de vue de la personne que vous sembliez être dans un rêve, votre conscience ou la conscience avec laquelle vous perceviez les rues de Londres vivait juste derrière vos yeux, dans votre tête. Et tout ce qui se trouvait dans les rues de Londres semblait être en dehors de votre conscience. Et votre expérience semble corroborer cela. Lorsque vous fermez les yeux, c'est dans votre rêve. Vous êtes dans les rues de Londres. Lorsque vous fermez les yeux, les rues de Londres disparaissent. Lorsque vous ouvrez les yeux, les rues de Londres peuvent réapparaître. Il semble donc raisonnable de conclure que tout ce qui perçoit vit juste derrière vos yeux, dans votre cerveau. Bien sûr, lorsque vous vous réveillez, vous réalisez, oh, que la connaissance avec laquelle j'ai perçu les rues de Londres ne résidait pas dans mon corps. Elle ne résidait pas dans mon cerveau. Elle ne résidait nulle part dans le temps et l'espace qui semblait être réel dans les rues de Londres. Elle vivait dans votre esprit, comme à New York. Cependant, votre esprit ne pouvait pas accéder directement au rêve. Vous ne pouvez pas être conscient de votre rêve, de ce discours à Londres, directement depuis votre lit à New York. Vous devez oublier que vous dormez à New York. Vous devez vous localiser dans votre propre imagination. Et c'est seulement du point de vue de cet esprit localisé que vous êtes capable de voir ce qui est en fait l'intérieur de votre propre esprit, mais qui apparaît comme le monde extérieur. Maintenant, je dirais que c'était un mécanisme, c'est exactement ce qui se passe, mais un niveau plus haut que la conscience infinie imagine pour ainsi dire. C'est un royaume de potentiel infini, mais elle imagine l'univers en elle-même et se localise simultanément dans sa propre imagination. Elle a un esprit fini apparemment séparé du point de vue duquel elle se regarde. Sa propre activité, mais elle la perçoit comme l'univers. La différence entre un rêve individuel, le rêve que vous avez fait et celui-là, c'est que vous vous localisez en tant que percepteur unique dans votre propre rêve. Alors que je dirais que la conscience infinie se localise en tant que nombreux percepteurs apparents. Et je dis apparent parce qu'en réalité, il n'y a pas d'individu. Tout comme il n'y a pas de re, vous ne devenez pas vraiment un esprit ou un esprit individuel dans les rues de Londres. Dans votre propre rêve, vous semblez seulement le faire. De même, je dirais que la conscience semble devenir de nombreux esprits finis, et à travers chacune de leurs facultés de perception, elle se perçoit comme l'univers. Ce mécanisme sujet-objet est donc le moyen par lequel la conscience tire la manifestation, tire l'existence de l'être, tire la manifestation du potentiel. C'est à travers ce mécanisme de relation sujet-logique que ce qui est en réalité une infinité, informe et indivisible apparaît comme de nombreuses choses finies. Et c'est ainsi que la relation sujet-logique est le mécanisme de création ou de manifestation. Maintenant, nous pourrions dire que la manifestation est l'interface entre la conscience infinie et l'esprit fini qu'elle semble devenir. La conscience infinie par elle-même, avant de se localiser en tant qu'esprit fini, n'a ni connaissance ni expérience parce qu'elle ne peut pas se séparer d'elle-même. Donc tout ce que la conscience infinie connaît est son propre être. Il n'y a pas de connaissance objective. Elle ne sait rien. Elle est tout mais elle ne sait rien. Elle ne fait l'expérience de rien. Pour expérimenter quelque chose, il faut que cela se localise et devienne une expérience apparemment distincte. Donc, la création manifestationnelle est l'interface entre l'esprit fini et la conscience infinie. Et cela crée l'illusion d'un monde créé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que rien de réel autre que la conscience infinie n'est réellement créé. Quand un film commence, l'écran apparaît comme un paysage, mais aucun paysage réel n'a été créé. C'est juste l'écran. Quand vous avez fait un rêve la nuit, aucune rue réelle de la Terre n'est créée. Ce n'est qu'une apparence de la réalité de votre esprit fini, relativement parlant. Donc, rien d'autre que la conscience infinie n'est créé. Tout se passe pour ainsi dire dans l'imagination de la conscience infinie. C'est seulement dans l'activité de la conscience infinie. Donc dans l'analyse alternative, il n'y a pas de création. Rien n'existe. Et ne peut faire une telle déclaration. Je dois la nuancer parce que si elle est mal comprise, elle pourrait paraître très nihiliste, une déclaration niant la vie. Ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Puis-je vous demander quelque chose, car je pense que vous allez y arriver de toute façon maintenant. Il y a une conversation ici dans Deep Chop où vous avez dit que vous ne croyez pas à l'incarnation, et encore moins à la réincarnation, dans le contexte où vous ne naissez jamais et ne mourrez jamais. Je pense donc que c'est de cela que vous allez probablement parler également, si vous pouvez développer cela, qu'est-ce que cela signifie? Et comme beaucoup de gens dans le monde croient au concept de réincarnation, je veux juste revenir en arrière d'un pas, car après avoir fait cette déclaration très audacieuse selon laquelle rien n'existe, je veux être sûr que cela ne soit pas mal compris, car cela pourrait sembler être une expérience très niaise et niante du monde, niant la vie. C'est en fait tout le contraire. Ce que je fais, c'est ce que le cinéaste Pasolini Cépin a dit de ses films. Il dit que j'essaie de redonner à la réalité sa signification sacrée originelle. C'est ce que j'essaie de faire. Je n'essaie pas de dégrader le monde. J'essaie de l'améliorer. J'essaie de redonner au monde sa signification sacrée originelle. Car qu'est-ce que je veux dire quand je dis que rien ne doit exister en dernière analyse? Le mot « existence » vient de deux mots latins « exineito » et « siister » qui signifient « se tenir debout ». Cela suggère que quelque chose qui existe se détache de son arrière-plan ou de sa réalité. C'est comme suggérer qu'un paysage dans un film se détache de l'écran. Si le paysage existe, il se détache de l'écran. Mais le paysage ne se détache pas de l'écran. Le paysage n'existe pas. Ce n'est qu'une apparence de ce qui doit être dit. Ainsi, la conscience infinie se divise ou semble se diviser elle-même à partir de la perspective localisée d'un esprit fini. Elle se perçoit comme l'univers. Mais il n'y a pas d'univers réel tel qu'il est normalement conçu. Il n'y a pas de personne réelle ou de soi séparée. Ce sont des apparences qui sont provoquées par cette division apparente dans la relation sujet-objet. La seule chose qui soit vraiment, c'est la conscience infinie. Les choses semblent exister, mais toutes les choses apparentes empruntent leur existence à l'être.
Elles n'ont pas d'existence indépendante.
Rien n'a d'existence indépendante, tout ce qui semble exister emprunte son existence apparente à ce qui est réellement, à savoir l'être ou la conscience. Cela nous amène à votre question suivante. C'est vrai que je ne crois pas à la réincarnation parce que je ne crois pas à l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation? La croyance que ce que nous sommes vraiment est né et incarné dans le corps. La croyance que ce que nous sommes vraiment, la réalité unique, la conscience infinie, est née dans un corps. C'est comme croire que l'espace de l'univers est né dans cette pièce lorsque ce bâtiment était, mais il
est déjà là, il l'a fait.
Il était déjà là et bien que maintenant il semble être enfermé et limité aux quatre murs de la pièce. Même maintenant, l'espace dans cette pièce n'est pas dans cette pièce. Il semble juste être. Donc même maintenant, l'être que nous sommes essentiellement semble être situé dans le corps et limité à celui-ci, mais même maintenant, il ne l'est pas. Et c'est exactement la même chose dans votre rêve lorsque vous rêvez que vous dormez dans votre lit à New York ou que vous rêvez que vous marchez à Londres. Il semble que votre esprit, et relativement parlant votre esprit à New York, soit situé dans votre corps dans les rues de Londres. Il n'est pas situé dans votre corps. Toutes les rues de Londres, y compris votre corps, sont situées dans votre esprit. Je dirais donc exactement la même chose. Il se passe maintenant que ce que nous sommes vraiment, la conscience, le perçoit à travers les facultés de l'esprit, mais n'est pas situé dans l'esprit. Donc, même maintenant, nous ne sommes pas incarnés. Nous ne sommes pas dans le corps. Nous ne sommes pas limités au corps. Nous ne sommes pas générés par le corps. mais nous voyons à travers les facultés de perception du corps. En fait, pour revenir un peu en arrière sur ce que j'ai dit à propos de la conscience qui se mécanise ou qui semble se localiser en tant que sujet séparé de son cerveau, quel est le mécanisme par lequel cette apparente opératisation a lieu? La perception. Imaginez une feuille de papier blanc qui représente la conscience infinie. Et puis, avec un crayon, dessinez un petit cercle sur le papier blanc. C'est maintenant qu'il y a une conscience limitée au sein de la vaste conscience. C'est l'esprit fini. Maintenant, quelle est cette limite faite de la perception, de la vue, de l'ouïe, du toucher, du goût et de l'odorat? C'est donc la conscience elle-même qui apparaît sous la forme de la perception et, ce faisant, elle semble se fixer une limite et se localiser. Elle regarde ensuite de l'intérieur de cette limite à travers la membrane perceptive et elle se voit elle-même, le reste du papier blanc d'une manière qui est cohérente avec les limites de ses facultés perceptives.
Considérant que c'est la vérité ultime, a-t-on le libre arbitre ou avons-nous une illusion de libre arbitre? Mais je veux dire que nous, eux, je parle du corps mental que j'appelle ici ou que vous appelez Whooper dans ce monde, dans un monde transactionnel, avons-nous une illusion de libre arbitre? Devrions-nous opter comme si nous avions le libre arbitre? Bien sûr, avons-nous vraiment le libre arbitre?
Nous le faisons en tant que nous voyons une expérience subjective distincte. Nous avons le sentiment d'avoir le libre arbitre et ce sentiment n'est pas totalement illusoire. C'est ce que nous savons tous, nous le ressentons tous dans notre gorgée. Votre peur, je suis intrinsèquement libre. C'est pourquoi personne n'aime être restreint. Tout le monde aime la liberté. Y a-t-il quelqu'un qui aime être restreint, confiné et limité? Je veux dire, nous aimons tous la liberté. Pourquoi? Et nous ne pensons pas non plus que la liberté est quelque chose que nous devrions mériter. Que certaines personnes devraient avoir plus de liberté que d'autres. Nous pensons tous que la liberté est notre droit de naissance. Elle est donnée librement et que tout le monde devrait l'avoir de manière égale. Pourquoi ressentons-nous cela? C'est à cause de cette intuition que nous avons. Même si nous ne la formulons pas dans les termes dans lesquels nous parlons, c'est parce que nous l'avons tous intuitivement. Et en fait, c'est plus qu'une intuition. C'est la reconnaissance que ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes est libre. Nous le savons tous. Et c'est à cause de cela que nous aimons tous la liberté, que nous nous insurgeons contre toute forme de limitation, car nous voulons vivre d'une manière qui soit cohérente avec qui nous sommes vraiment. C'est pour cette raison que nous pensons avoir le libre arbitre, mais la liberté que nous avons, et nous avons la liberté que nous avons, ne nous appartient pas en tant que personne distincte. C'est la liberté qui est inhérente à la conscience. C'est la nature de la conscience qui circule à travers les facultés conditionnées de notre esprit et de notre corps. Une grande question que les gens vont critiquer dans la connaissance ou ont, c'est que nous devons embrouiller l'esprit pour même comprendre cela alors que tout ce que nous réalisons est vrai. Oh, parce que je ne sais pas pourquoi les gens continuent à traîner aussi. La conscience peut-elle être consciente d'elle-même ou la conscience peut-elle être consciente d'elle-même et où l'esprit est-il nécessaire pour que la conscience soit consciente d'elle-même? La conscience ne peut pas ne pas être consciente d'elle-même. Vous posez la question, la conscience peut-elle être consciente d'elle-même? C'est comme poser la question, le soleil peut-il s'illuminer lui-même? Le soleil ne peut pas ne pas s'illuminer lui-même. La nature du soleil est mon illumination. Et donc, juste en étant lui-même, il s'illumine lui-même. La conscience, c'est comme, en d'autres termes, le soleil est autolumineux. Il n'a pas besoin de faire mieux. Elle n'a pas besoin de pratiquer ou de méditer, sinon elle s'illumine simplement en étant. La conscience, c'est comme ça. Sa nature est la conscience ou la conscience, j'utilise ces mots comme synonymes. La conscience est par nature consciente ou consciente. Sa nature est la conscience. Elle ne peut donc pas ne pas en être consciente. Rien qu'en étant elle-même, elle se connaît elle-même. Pas dans une relation sujet-objet. La conscience est connaissance d'elle-même, c'est la seule expérience qui n'a pas lieu dans une relation sujet-objet, ou toute autre expérience sans exception, a lieu dans une relation sujet-objet, à l'exception de la conscience d'être. La conscience est connaissance d'elle-même, de la même manière que nous pourrions dire que toutes les planètes sont illuminées par le Soleil dans une relation sujet-objet. Le Soleil est le sujet de l'illumination, et la Terre, la Lune et les achaniques sont les objets de cette illumination, mais son illumination d'elle-même n'a pas lieu dans une relation sujet-objet. Elle ne peut pas supporter une partie, ni en avoir besoin pour s'illuminer elle-même. La conscience est comme ça. Elle est autolumineuse, ou soi, et c'est la seule expérience qui n'est pas médiatisée par le sujet, ou disposition qui n'est pas médiatisée par un esprit fini, et c'est donc la seule connaissance qui soit peut-être absolument vraie. Et maintenant la deuxième partie de votre question, une conscience peut-elle être consciente d'elle-même ou a-t-elle besoin d'un esprit fini pour se connaître? La conscience ne peut pas, tout comme elle ne peut pas ne pas se connaître par elle-même. La conscience ne peut pas se connaître directement par l'esprit fini. Parce que l'esprit fini est comme un filtre. C'est comme une paire de lunettes. Et l'être humain est fait pour penser et percevoir. Donc tout ce qui est connu par l'esprit fini partage les limites de cet esprit fini et apparaît en accord avec ses limites. Pourquoi faisons-nous l'expérience du monde comme une série de vues, de sons, de goûts, de textures et d'odeurs? Parce que nos facultés de perception consistent à voir, entendre, toucher, goûter et sentir. Il existe donc une correspondance directe entre nos facultés de perception et ce que nous percevons comme le monde. Donc tout ce qui est connu par et la ligne finie est par définition limitée. C'est comme une paire de lunettes limitées ou un casque de réalité virtuelle que la conscience met. Et tout ce que la conscience voit à travers cet esprit fini, ce casque de réalité virtuelle, apparaît conformément aux limites de ce casque. Ainsi, non seulement la conscience n'a pas besoin de l'esprit fini pour se connaître elle-même, mais elle ne peut pas se connaître à travers l'esprit fini. Nous ne pouvons pas voir la neige blanche à travers des lunettes teintées d'orange. La conscience a besoin de l'esprit fini pour percevoir le monde. La conscience ne peut pas voir le monde directement. La conscience ne sait rien par elle-même. La conscience n'a pas d'expérience. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons vu, pour connaître ou expérimenter quelque chose, vous devez vous tenir à l'écart de cette chose. Dans les points de vue de la relation sujet-objet. La raison pour laquelle vous pouvez voir cet arbre est que vous le voyez d'un seul point de vue. Imaginez que vous regardiez cet arbre et que vous le voyiez de 10 points de vue différents simultanément, puis que vous superposiez toutes ces 10 images sur une seule. Il ne ressemblerait plus à un arbre. C'est parce que pour voir un arbre, il faut le voir d'un seul point de vue. Imaginez si la conscience pouvait percevoir l'arbre par elle-même. Elle percevrait l'arbre de tous les points de vue possibles dans l'espace et elle superposerait toutes ces images les unes sur les autres. Que resterait-il? Ce ne serait que les parenthèses les plus sombres et les plus profondes que vous puissiez imaginer. Il n'y aurait pas de format. Pour voir un objet, votre conscience doit exclure tous les autres points de vue. Se localiser en un seul point de vue, c'est seulement à partir de ce seul point de vue que la conscience peut voir un objet par elle-même. La conscience ne peut rien savoir ni percevoir. L'esprit est nécessaire pour connaître quelque chose d'objectif. Que ce soit le monde objectif ou j'inclus dans la connaissance objective des pensées pour connaître une pensée, que je connais mes pensées. Je perçois l'arbre, la connaissance de nos pensées et la perception du monde. Tout cela prend place dans une relation sujet-objet. Mais tout cela doit être médiatisé par un esprit fini. En l'absence d'un esprit fini, la conscience n'a pas d'expérience objective. Tout ce qu'elle connaît, c'est son propre être. Une conscience a donc besoin de se localiser en tant qu'esprit fini afin d'avoir une expérience objective. que cette expérience objective soit l'expérience du monde ou l'expérience des pensées et des émotions. Mais sous la forme d'un esprit fini ou à travers les facultés d'un esprit fini, elle ne peut pas se connaître elle-même. C'est comme si John Smith ne pouvait pas se connaître lui-même à travers le personnage de Kellyer. Kellyer ne peut pas connaître John Smith. Seul John Smith peut connaître John Smith. Si John Smith veut connaître Cordelia ou veut être roi d'Angleterre, il doit prendre la forme du roi. Mais pour se connaître lui-même, non seulement il doit se déguiser en roi sous la forme du roi, mais il ne peut pas se connaître lui-même, il se connaît lui-même directement ou la conscience est comme ça. Il y a beaucoup de scientifiques qui font également des recherches sur l'espace et le temps. Donald Hopin dit spécifiquement que l'espace et le temps sont condamnés. Pouvez-vous en parler d'un point de vue non-duel ? Oui. Oui. L'espace et le temps sont condamnés dans le sens où nous pensions autrefois que l'espace et le temps étaient inhérents à la réalité elle-même. L'espace et le temps avec le milieu. Dans lequel l'univers, notre expérience, etc. se déroule, cela touche. Maintenant, cette idée, comme vous le dites plus, et tous les gens s'endurcissent. Et puis les autres, ils sont un vrai, ce n'est pas vrai. L'espace et le temps sont la façon dont la réalité apparaît, c'est lorsqu'elle est modulée par un esprit humain. Notre esprit humain est constitué des facultés jumelles de penser et de percevoir. Ainsi, lorsque la conscience se regarde à travers un esprit humain, c'est tout ce qu'il y a dans la réalité à regarder. Son expérience d'elle-même est modulée par les limitations de cet esprit. Et l'esprit humain consiste à penser et à percevoir. Ainsi, lorsque la conscience regarde à travers la faculté de penser, elle ne se connaît plus telle qu'elle est réellement parce qu'elle a été médiatisée par l'esprit à travers la pensée. Ainsi, lorsque la conscience regarde la réalité à travers la faculté de penser, elle apparaît comme du temps. Lorsque la conscience se regarde à travers la faculté de perception, elle apparaît à elle-même comme de l'espace. Ainsi, le temps et l'espace sont la façon dont la nature éternelle et infinie de la conscience apparaît à elle-même lorsqu'elle se voit à travers les facultés de pensée et de perception. On pourrait dire que la pensée et la perception superposent le temps et l'espace à la réalité qui est elle-même éternelle et infinie. Éternelle et infinie. Éternelle ne veut pas dire éternelle dans le temps et infinie ne veut pas dire sans limite dans l'espace. Cela signifie ni dans le temps ni dans l'espace. Donc, lorsque la conscience se regarde, lorsque la conscience se réfracte à travers les facultés de la pensée et de la perception, sa réalité éternelle et infinie apparaît comme le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont notre tour. Ce n'est pas le temps et l'espace qui sont une propriété de l'esprit. La pensée et la perception sont une propriété de l'esprit. La pensée et la perception confirment le temps et l'espace sur la réalité. Elles font que la réalité semble être du temps et de l'espace. Mais en réalité, il n'y a ni temps ni espace. Et c'est en fait votre expérience. Eh bien, c'est quelque chose qui est tout. Cela peut paraître très abstrait et philosophique, mais faisons juste une petite expérience. Seriez-vous d'accord pour dire que votre expérience a lieu maintenant ?
Oui, seriez-vous.
D'accord pour dire que toute expérience a lieu maintenant ?
Oui.
Maintenant, pouvez-vous sortir du présent pour aller dans le passé juste un instant ? Quelqu'un a-t-il déjà quitté l'expérience que nous appelons le présent et visité l'endroit que nous imaginons appeler le passé? Oui, juste pour avoir une sorte de souvenir, mais nous ne pouvons pas. Mais le souvenir a lieu maintenant, et dans le présent, c'est exact. Avec notre mémoire, nous imaginons le passé, mais nous ne pouvons pas réellement y aller. Avec notre imagination, nous pouvons imaginer le futur, mais nous ne pouvons pas réellement sortir du présent et aller dans le futur. Donc le passé et le futur ne sont jamais vécus. Ils sont imaginés, mais le présent est vécu. Nous vivons sans aucun doute le présent. Maintenant, depuis que nous parlons, Amira, combien de maintenant avez-vous vécu? Un.
Seul. Un seul.
Point. Dans votre vie, combien de maintenant avez-vous vécu? Un. Seul. Et. Étant donné que vous n'avez jamais vécu de passé ou de futur, en d'autres termes, vous n'avez jamais réellement vécu une ligne de temps, combien de temps dure le présent? Il est toujours zéro, mais il ne bloque pas. Il ne bloque pas. Le présent n'est pas un moment sur une ligne horizontale du temps. C'est la dimension verticale de l'être. Mais la dimension verticale de l'être croise la ligne horizontale du temps au point que nous appelons maintenant. Donc du point de vue de l'esprit qui imagine une ligne du temps, le maintenant est un moment. Le moment présent. Mais du point de vue de la réalité, le maintenant est l'éternité. Donc le maintenant participe à la fois du temps et de l'éternité. Du point de vue du temps, il est conçu comme un moment. Du point de vue de la réalité, il est l'éternité. En d'autres termes, le temps n'est jamais réellement expérimenté, ce n'est pas de la philosophie haïtienne. C'est de la philosophie, mais c'est la vraie philosophie qui consiste à écrire à partir de l'expérience et non de la raison abstraite. Si vous approfondissez l'expérience du maintenant, comme vous le dites à juste titre, il n'y a qu'un maintenant, il n'y a qu'un seul maintenant, le maintenant n'a pas de durée et le maintenant ne se déplace pas le long d'une ligne du temps. Le maintenant est stationnaire. Faites maintenant la même expérience avec l'espace. C'est plus difficile avec l'espace. Seriez-vous d'accord pour dire que votre expérience se déroule actuellement ici? Seriez-vous d'accord pour dire que votre expérience se déroule toujours ici?
C'est vrai. Y êtes-vous?
Déjà. Allez.
Seulement en imagination.
Vous l'avez imaginé? Oui, mais nous avons imaginé le passé lorsque nous imaginons le futur. Mais nous ne pouvons pas réellement y aller. Pas la réalité. Nous imaginons là-bas. Mais lorsque nous essayons d'y aller, c'est comme essayer d'aller dans le passé. Nous réalisons qu'il est toujours ici. Notre expérience est toujours ici. Et ici n'est pas un lieu dans l'espace qui ne se déplace pas dans l'espace. L'ici n'est pas un lieu dans l'espace. C'est l'endroit où se trouve la conscience. C'est l'endroit où je suis. Tout comme le présent n'est pas étendu dans deux dimensions du temps. L'ici n'est pas un lieu dans trois dimensions de l'espace. Les trois dimensions de l'espace sont une illusion créée par les sens et cela est confirmé par notre expérience que nous sommes toujours ici. N'avez-vous jamais vécu cette expérience lorsque vous partez en voyage, que vous faites un long voyage jusqu'à la côte ouest ou quelque chose comme ça et que lorsque vous y arrivez, vous avez ce sentiment étrange, j'ai été là tout le temps. Je ne suis allé nulle part. C'est toujours le battement. Il a battu et quelqu'un vous a demandé combien de temps avait duré le voyage et vous vous êtes arrêté et vous n'avez pas pris de temps. C'était maintenant tout le chemin. J'étais là. J'étais là. Le monde se déplaçait à travers moi. Je ne me déplaçais pas dans le monde. C'est la perception qui vous fait penser que vous vous déplacez dans le monde. En réalité, l'ici et maintenant ne sont pas dans le temps et l'espace. Ils sont le lieu intemporel et sans lieu de la conscience et ils ne vont jamais nulle part. Les sensations et les perceptions nous traversent, mais nous ne nous y déplaçons pas.
Donc, une conscience entière danse.
Temps et cet espace, est-ce à quoi ressemble la conscience lorsqu'elle est médiatisée par les facultés de pensée et de perception? Ils ne sont pas vraiment là, et nous n'aurions pas eu beaucoup de temps, mais c'est en fait notre expérience. Vous pouvez le vérifier. Ce dont je parle, ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas dérivé des mathématiques ou de la philosophie, ou c'est mon expérience. C'est l'expérience de tout le monde, mais l'expérience de la plupart des gens est tellement recouverte de croyances. Plus les preuves apparentes de la perception sensorielle, que nous ne réalisons pas que nous vivons cela. Nous voyons, nous sommes convaincus que notre expérience se déroule dans le temps et l'espace et, contrairement à cela, ce que je suggère semble être une philosophie abstraite de la haute éthique, c'est tout le contraire, une croyance dans le temps et l'espace qui est un espace-temps sur un terrain abstrait que personne n'a jamais vu ou expérimenté.
Juste des concepts, juste des concepts.
C'est comme, vous savez, ce n'est pas ce que j'ai dit plus tôt, attention à la pensée de notre faculté et à la réception des lunettes que nous portons. C'est plutôt comme des lentilles de contact. Vous savez, si vous portez des lunettes, vous
portez des lunettes techniques.
D'accord, je parie que vous oubliez que vous portez des lentilles de contact, mais d'accord, je n'oublie jamais que je porte des lunettes. Je suis toujours consciente que je porte des lunettes, mais vous portez des lentilles de contact. Elles sont si proches de vos yeux que vous oubliez que vous les portez. Maintenant, imaginez que vos lentilles de contact soient teintées en vert. Tout ce que vous voyez serait vert. Mais parce que vous avez oublié que vous portez des lentilles de contact, vous pensez que tout est vert.
N'est-ce pas?
Non, ce n'est pas le cas. Dans vos lentilles de contact, c'est un rêve. Mais nos facultés de pensée et de perception sont comme des lentilles de contact. Ce n'est pas comme une paire de lunettes ou même un casque de réalité virtuelle lourd. C'est comme des lentilles de contact que porte la conscience. Et les lentilles de contact sont teintées par la pensée et la perception, mais elles sont si proches de la conscience que nous ne réalisons pas que nous portons les lentilles de la pensée et de la perception. Nous pensons donc que le temps et l'espace sont là. Ce n'est pas le cas. Ils sont dans les facultés de perception. Ce qui est là-bas, c'est l'infini. Et bien sûr, même dire que c'est là-bas n'est pas tout à fait juste. Je fais une concession à notre normal, pour le contraindre. C'est difficile. Vous voyez, notre langage a évolué pour décrire le contenu de l'expérience. Le temps, l'espace. Le temps et l'espace sont implicites dans presque tout ce que nous disons. Donc, quand nous essayons de parler de ces choses, tout ce que nous avons, ce sont ces symboles abstraits plutôt maladroits qui ont été conçus pour décrire les choses, et maintenant nous essayons de les utiliser habilement pour décrire ou ne pas décrire, et nous ne pouvons pas décrire la réalité, mais pour invoquer la réalité, dans tous les langages, d'une manière à laquelle ils n'étaient pas vraiment destinés. Mais laissez-moi le dire autrement. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui est absolument vrai, à l'exception peut-être de je suis. Tout le reste est ma meilleure tentative pour ne pas décrire, mais pour évoquer la réalité chez l'auditeur en utilisant des raisons illusoires. Parfois, en utilisant des expériences, parfois en utilisant des analogies, des métaphores, juste pour essayer de nous donner un avant-goût. Vous savez, Suzanne a dit quelque chose de magnifique à propos de ses peintures. Il a dit, « Ce que j'essaie de faire avec mes peintures, c'est de donner aux gens le goût de l'éternité de la nature. » Il n'a pas dit, « J'essaie d'expliquer l'éternité de la nature. » Personne ne peut expliquer l'éternité de la nature. Mais c'est ce que l'artiste essaie de faire, de nous y emmener, de nous en faire vivre une expérience ou un goût viscéral. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes mots tels qu'ils sont. Je n'essaie pas de décrire la réalité. Je reconnais que cela ne peut pas être stupide. Je suis, le mieux que je puisse faire serait de rester silencieux. Ce ne serait pas très efficace. Le mieux, c'est de dire je suis. Mais même cela n'est pas efficace si vous ne le comprenez pas vraiment. Il faut donc une explication et nous faisons de notre mieux non pas pour décrire, mais pour évoquer une compréhension riche chez nos spectateurs, chez nos auditeurs et chez chacun d'entre nous. Point. Nous la prenons en nous, nous l'écoutons, nous la lisons, nous y réfléchissons, nous la retournons. Notre esprit soulève des objections, nous posons des questions, nous donnons une réponse, nous comparons la réponse à notre propre expérience, nous y réfléchissons. Nous assimilons simplement cette compréhension. Nous assimilons les mots, les idées, nous les assimilons. Nous les laissons faire leur propre travail en nous. Nous ne pouvons pas saisir la réalité. Vous assimilez cette compréhension et c'est comme si cette compréhension était un agent révélateur qui dissout. Elle fait simplement son travail dans notre esprit, un esprit qui réfléchit constamment à ces questions, les explore, les médite. La compréhension fait son travail. Si nous ne le faisons pas, la compréhension fait son travail en nous. Et il arrive très rarement que cette compréhension commence à nous apparaître, qu'il y ait un grand moment d'illumination, que cette reconnaissance s'accompagne de signes inhabituels dans l'esprit et dans le corps, mais ce n'est généralement pas le cas. Habituellement, cette compréhension agit en nous comme un agent révélateur qui dissout et elle dissipe progressivement tous les doutes, toutes les obstructions ou toutes les. Et progressivement, la réalité se révèle à nous, mais elle entre par la porte de derrière. N'entre pas par la porte d'entrée. Il nous surprend. Il commence à nous rattraper. Et d'une certaine manière, c'est plus sûr si cela se produit comme ça, car nous ne pouvons jamais rien revendiquer. Nous ne revendiquons jamais l'illumination ou la compréhension, où il n'y a pas de grand événement. C'est juste notre vision de nous-mêmes et des autres dans le monde. Il est juste progressivement purifié de toutes nos vieilles croyances et de nos vieux sentiments. Et je ressens de plus en plus que le monde commence à perdre de son pouvoir. Il commence à briller de sa réalité. L'oubli, l'amnésie s'évapore et cela est ressenti à l'intérieur. Comme une paix profonde, indéfectible et sans cause. Et à l'extérieur, c'est ressenti comme de l'amour.
Merci beaucoup, Rerk. Ce fut un plaisir de parler. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup.